Chers amis, bonjour, bienvenue dans Planche Case et Bulle, premier numéro de l'été, où pendant cet été, justement, Christol Siek et moi-même regarderons les œuvres fondatrices de la bande dessinée, depuis Tintin au pays des soviets, qui concernera cet épisode, mais aussi avant Rodolphe Topfer, Christophe Colomb, Christophe Colomb, non, évidemment, c'est Christophe, le dessinateur de Plick et Ploc, du savant Cosinus, des aventures de la famille Fenouillard, et qui était en fait Monsieur Colomb, professeur très sérieux de la Sorbonne, mais voilà, qui avait une seconde vie à côté. Donc, toutes ces bandes dessinées ont fondé le genre, ont fondé notre lecture, ont fondé nos perceptions, et elles ont toutes un titre divers, soit inventer un nouveau mode d'expression, voilà. Oui, la bande dessinée est un nouveau mode d'expression, soit réussi à profondément modifier la manière dont l'exercice se réalisait, soit enfin ont particulièrement marqué les lecteurs au point de populariser la bande dessinée dans telle ou telle couche de la population ou tel pays, etc. Pourquoi commencer par Tintin au pays des soviets? Parce que, évidemment, Hergé reste le sommet autour duquel s'organise une bonne partie de la production contemporaine. Il est le père fondateur, il est celui qui a très rapidement réussi à obtenir des tirages et des succès absolument incroyables, même pour l'époque, sans télévision et avec beaucoup de radio, mais voilà, où le culte de l'image était déjà fort. Et en fournissant les planches de Tintin au pays des soviets, il a porté en même temps une bande dessinée politique, une bande dessinée qui paraissait dans le petit 20e, dirigée par l'abbé Valèze, ou je ne sais pas si on dit Valèze ou Wallèze d'ailleurs. Et cette bande dessinée a connu plusieurs métamorphoses. La première métamorphose, c'est le fait qu'elle paraissait en feuilleton et qu'ensuite, elle a évidemment été rééditée en album. La seconde métamorphose, c'est que l'album est devenu introuvable au fur et à mesure que les éditeurs, Casterman et Hergé lui-même, ont jugé que l'anticommunisme de l'abbé Valèze était difficilement vendable dans un Occident devenu très communiste, surtout après la Seconde Guerre mondiale, avec les accusations de collaboration portées à l'encontre d'Hergé. Et puis, voilà, ressuscite dans les années 70-80, si je ne m'abuse, avec les archives Hergé, la bande dessinée ressuscite. Et elle ne ressuscite pas seule. Les éditions Casterman décident de rééditer, évidemment, cet album maudit, mais pas tout seul. Ils décident de le rééditer avec les autres versions en noir et blanc des 9 premiers albums de Tintin, c'est-à-dire, en l'occurrence, Tintin au Congo et Tintin en Amérique. Et comme ça, il y aura plusieurs gros volumes des archives Hergé avec un appareil critique et aussi, d'ailleurs, d'autres œuvres d'Hergé comme Totor, CP des Hannetons, si je ne m'abuse, qui devait être dans ce premier volume des archives. Et c'est un choc. C'est un choc parce que la plupart des gens qui, comme Christol et moi, n'avions pas accès aux collections privées, n'étions pas assez fortunés pour mettre quelques dizaines de milliers de francs, car nous parlions en francs encore à l'époque, n'est-ce pas Christol? Je ne sais même pas si tu étais né, dans un album de Tintin au pays des soviets, découvrent une planche RGN très, très bizarre. Noir et blanc, 6 cases par page, un trait très gras, et c'est un choc. On a l'impression quasiment d'être chez Tardy et pas chez Hergé. Tardy d'ailleurs qui préfère beaucoup, en tout cas il le dit, ses albums de la première période RGN, c'est-à-dire avant la mise en couleur, avant les années 40. Dernière métamorphose, justement, la réédition en couleur de Tintin au pays des soviets, avec d'ailleurs d'autres albums qui seront eux aussi colorisés, comme on dit, avec, à mon sens, d'ailleurs, des fortunes plus ou moins heureuses dans le choix de la palette de couleurs. Voilà, ça, c'est le cadre de ce dont nous allons parler avec Christol. Et toi-même, quand as-tu découvert cette bande dessinée de Tintin au pays des soviets?
Alors, je sais qu'elle a été éditée, comme tu le disais, au sein des archives Hergé en 1973.
Ah, donc c'était bien les années.
J'avais 2 ans.
Oui, ok.
Et je ne pense pas qu'à l'âge de 2 ans, je l'ai parcouru, mais il est possible que mon père l'ait acheté, aimant bien Hergé, et que j'ai tourné les pages, je ne sais plus. Plus sérieusement, je pense que c'est dans les années 80 que j'ai dû faire la connaissance de cette première œuvre d'Hergé, que j'ai à l'époque délaissé sur le plan artistique, mais par contre me délectant de quelques planches où on critiquait de façon très virulente le bolchevisme. C'est surtout ce qu'on le retient, mais si l'on fait au cours de l'été des émissions sur la genèse de la bande dessinée en général, bah, il faut essayer de creuser un petit peu la vision artistique, enfin la touche artistique d'Hergé lors de ses premières œuvres. En fin de compte, là, on se replonge loin dans le passé. C'est précisément il y a un siècle, en 1925, que Georges Rémy, qui signe déjà sous le pseudonyme Hergé, est employé au journal belge, comme tu le disais, Le Petit Vingtième, qui est catholique et conservateur. Alors, il a été recruté dans ce journal, ce n'est pas une surprise, puisque déjà Hergé, qui était né en 1907 dans la bourgeoisie catholique de Bruxelles, était scout. Et donc déjà, il faisait des œuvres, des planches dans des petits fanzines dans le monde scout, notamment dans un bimensuel qui s'appelait Jamais assez, de la troupe Saint-Boniface, qui était tirée au sein de son collège. Et donc, il était très fort en classe, mais passionné par le dessin. Et il a eu le courage de se lancer dans le dessin où peu, à l'époque, il y avait encore des peintres, hein. Peu de personnes douées de ses mains se lançaient dans le dessin, dans la bande dessinée. C'était sa passion, il y est allé. Et effectivement, on va en parler de cette première création, Tintin au pays des Soviets. Mais ce qui est certain, c'est que lorsqu'il a créé ce premier album, il n'avait aucune idée du succès extraordinaire que connaîtraient au fil des décennies les aventures de Tintin. C'était un coup d'essai, fait rapidement, comme tu le disais, fait par semaine après semaine, parce qu'en fin de compte, le petit 20e sortait tous les jeudis. Tu as cité l'abbé Valèze, c'est le rédacteur en chef du 20e siècle, ce journal, cet hebdomadaire, non, ce quotidien catholique et conservateur. Et il a eu l'idée, en 1928, de créer un supplément jeunesse qui sortait le jeudi, qui s'appelait donc Le Petit 20e. Il a proposé à Hergé d'être le rédacteur en chef. Il faut signaler qu'il travaille également dans ce petit quotidien Léon de Grelle. Donc il a connu Léon de Grelle. Bon, ce n'est pas surprenant puisque c'était le monde catholique belge plutôt conservateur de droite. Et assez rapidement, après ses premières œuvres qui étaient, comme tu le disais, Totor, Les Hannetons, toutes ces aventures-là, eh
Et aussi,
bien,
il faut le dire,
Poussette.
Flup Nénès, Poussette et Cochonnet.
Alors, je me souviens, je les ai lus il y a quelques années, mais je ne les ai pas relus. As-tu un souvenir de Cochonnet ou de Poussette?
Et non, et ni de Flup ni de Nénès. Voilà, je n'ai jamais lu les aventures de Flup Nénès, etc. et Cochonnet, qui d'ailleurs, il y a un autre album avec des animaux qui a été longtemps édité, qui l'est peut-être encore, et qui était dans la même veine grotesque et voilà, que je n'ai pas lu.
Ouais.
Bref, excuse-moi, je t'ai interrompu.
Non, 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 j'y venais. Et en fin de compte, l'abbé Valèze, il a envie vraiment de révéler aux jeunes bruxellois le danger immense à ses yeux du bolchevisme. Alors, c'était quelques années après c'est-à-dire à peu près quelques années après la révolution soviétique. Le Vatican avait tout de suite compris le danger du bolchevisme russe. Et au courant de cela, l'abbé Valèze voulait aussi en informer la jeunesse bruxelloise. Et donc, il demande à Hergé de créer un nouveau personnage et il lui remet un ouvrage, l'un des rares qui à l'époque dénonçait déjà le communisme. C'est un pamphlet qui s'appelle Moscou sans voile, 9 ans de travail au pays des Soviets, qui est écrit par Joseph Douillet. Joseph Douillet, c'était l'ancien consul de Belgique en Russie, qui a été littéralement catastrophé par le communisme en Russie. Et donc, dans ses pamphlets, il va dénoncer sous toutes ses coutures le communisme à travers le système policier, l'économie défaillante, la santé catastrophique. Et Hergé, il faut l'imaginer, semaine après semaine, crée une ou deux planches, je ne me souviens plus, chaque jeudi, dans lesquelles il y a des gags, plus ou moins drôles, plus ou moins bien amené, mais à l'époque, il n'avait aucune idée d'en faire un album à succès. Mais ces gags sont entrecoupés de passages anticommunistes qu'il a littéralement tirés de ce pamphlet. Par exemple, l'un des passages les plus connus, c'est le système électoral, où donc l'écrivain, ancien consul Joseph Douillet, raconte lors de la salle de vote que les responsables communistes présentent les trois listes en indiquant que l'une est du Parti communiste. Et il demande dans la salle que ceux qui s'opposent à cette liste lèvent la main. Et au même moment, ces quatre lieutenants sortent leur revolver, désignent les paysans, les menaçant au poing, prêts à les éliminer. Et donc, forcément, tout le monde va voter pour la liste communiste. Et Hergé, lui, il lit le texte et il doit, dans son esprit, imaginer comment il va montrer cette scène dans sa planche. Et Hergé va accentuer l'effet de cette scène en dessinant les électeurs qui, case après case, je crois que tu l'as dit, tu en avais six cases par planche, case après case, courbent progressivement l'échine face aux dirigeants qui, eux, à l'inverse, sont de plus en plus enjoués de comprendre qu'ils vont être élus triomphalement grâce à ce vote peu démocratique. Et donc, de ce texte très sérieux, anticommuniste, Hergé reprend l'idée anti-bolchevique, mais on fait aussi un gag à travers les paysans de plus en plus catastrophés et les communistes de plus en plus heureux de leur succès. Et oui, vas-y.
Non, eh bien, non, non, ben, bravo, belle lecture. Et en fait, le livre de Douillet est très, très utilisé par Hergé, puisqu'il y a bien sûr la scène célébrissime des élections au revolver, mais aussi la scène où, dans une usine, à la page 68, les cases A et B, on voit d'une part un communiste en train de brûler du foin mouillé pour dégager une fumée noire qui est censée être la fumée des usines, derrière des panneaux où sont peints en fait des perspectives des usines en fait sans machine, et pendant que aussi derrière ces panneaux un autre communiste est en train de taper avec deux maillets sur des plaques de tôle pour produire le bruit des machines. Et en fait, Douillet a inspiré en fait à de nombreuses reprises le Hergé qui a été très marqué par la lecture de ce livre, évidemment, qui lui avait été donné par l'abbé Vallée.
Ouais. Et ce qui est amusant de relever, c'est que Douillet, dans le... Alors, je ne sais pas si c'est dans le texte de Douillet, en tout cas dans l'album d'Hergé, juste avant qu'on découvre comment les communistes font croire que les usines fonctionnent, eh bien, on découvre que les communistes font visiter ces usines à des Anglais, des syndicalistes anglais qui sont rouges, hein, qui ont été gauchisés par le communisme, et qui sont bêtement émerveillés par cette usine qui fonctionne, se disant les uns les autres, bah, vous voyez, en fin de compte, ce qu'on raconte, c'est faux, le communisme, c'est merveilleux. Et ces communistes-là, les idiots utiles, sont eux-mêmes trompés par les communistes russes. Et c'est vrai que c'est quand même révélé aux enfants, avec une certaine gentillesse, que les communistes européens, qu'à l'époque on retrouve en France, en Espagne, en Angleterre, en Italie, eh bien, pour certains, il faut le dire, pouvaient avoir un bon fond, être de bonne foi, voulaient peut-être une justice sociale, mais qu'ils ont été bernés par un système totalitaire et qu'ils sont tombés dans le panneau. C'est amusant de révéler à des enfants qui peuvent avoir 10 ans, faites attention, les petits, vous pouvez vous aussi tomber dans le panneau, on peut vous tromper. Et c'est amusant que des enfants se moquent d'adultes qui seront trompés par le communisme. Peut-être même, on peut l'imaginer, que certains enfants connaissaient des professeurs à Bruxelles qui étaient communistes. Bon, et c'est amusant. C'est comme une bande dessinée destinée aux enfants, mais avec par tous les gars qu'il y a, mais avec comme des passages très adultes. Je ne sais pas si à l'époque, il y avait quand même déjà des œuvres dans le domaine littéraire qui dénonçait le communisme, c'était quand même assez rare. Et Hergé est l'un des premiers à l'avoir produit.
Non, tout à fait. Alors, un des commentateurs d'Hergé, des commentateurs majeurs d'Hergé, Frédéric Soumois, qui a publié un grand livre qui n'a jamais été réédité à ma connaissance, et c'est une vraie pitié. Mais je crois que les gens ont décidé qu'il était à droite, et évidemment, c'était mal. Donc en 1987, il a publié Dossier Tintin, source, version, thème et structure, qui est une étude magistrale de tous les albums de Tintin, sauf évidemment le dernier, si je ne m'abuse, donc celui qu'on sait, Tintin et l'Alphard, avec l'idée de vraiment d'analyser chaque source et de montrer où Hergé est allé puiser son inspiration. Et il remarque, alors que Douillet parle évidemment des persécutions antireligieuses et des persécutions et du climat d'immoralité généralisée qui règne en URSS une fois que les communistes ont pris le pouvoir, Hergé est particulièrement discret sur la question. Et c'est intéressant de voir que dans un journal catholique, Hergé a éliminé soigneusement, alors sous la direction de l'abbé Valèze, sans doute pas, qui aurait sans doute insisté sur cet aspect-là des choses, motu proprio, parce qu'il commençait déjà à prendre un peu ses distances avec la religion catholique, sans doute aussi peut-être parce que, voilà, même en Belgique et même sous le bon roi, il y avait déjà une partie des lecteurs qui n'étaient pas sensibles à cet aspect-là des choses. Je ne résiste pas au plaisir de vous lire un paragraphe. Où Douillet s'étend sur les maladies vénériennes endémiques, sur le divorce et l'avortement légaux, qui selon lui sont des signes de décadence des mœurs. Je cite Monsieur Douillet, ancien préfecteur, ancien consul de Belgique en Russie, ainsi que l'absence de répression de l'homosexualité et même la mixité de l'enseignement, qui est une préméditation immorale. Donc évidemment, ceux qui lisent Douillet aujourd'hui ont l'impression qu'on véritablement d'un autre temps. Mais Hergé, justement, alors, élimine le catholicisme et la persécution religieuse, ça paraît logique, et surtout, il élimine donc tous les aspects, enfin, ça paraît illogique, mais en revanche, il élimine tout ce qui est connotation sexuelle, et là, dans une publication destinée aux enfants, ça paraît normal.
Et
Alors, je
pardon.
voudrais juste qu'on parle un tout petit peu, indépendamment des sources, vraiment du style d'Hergé et de la raison pour laquelle je trouve que la colorisation change absolument le regard qu'on porte sur cet album. Hergé joue vraiment, qui à l'époque écrit des bandes dessinées, enfin, il les scénarise et il les dessine, et en même temps a un studio de publicité où il va produire des publicités au sens propre, mais aussi des opuscules publicitaires, des brochures. Voilà. Il a aussi illustré un livre sur le roi des Belges qui est mort après la guerre de 14-18. On a là un artiste qui est d'abord quelqu'un qui essaye de vendre son art et qu'il vend donc en utilisant les ressources de son époque et donc avec donc une publicité qui était encore extrêmement graphique et pas du tout pas systématiquement photographique avec énormément de publicité dessinée. Et Hergé donc est un maître vraiment de l'utilisation de l'espace. Il y a dans ces noirs et blancs vraiment un poids du blanc qui est très important et qui contribue au charme parce que le fait que Hergé soit tout petit dans une le fait que pardon que Tintin soit tout petit dans une case blanche, le fait qu'on nous présente des paysages hivernaux et désolés en URSS qui sont juste des traits noirs, évidemment ça contribue puissamment à installer un climat un peu dramatique et aussi ça contribue parfois pour certaines cases à vraiment, on a l'impression d'avoir une espèce de pyrogravure de Valoton et de ce genre d'artiste fin 19e, début 20e. Avec la colorisation, ben, tout disparaît.
Oui, alors.
Et c'était un passage de balle un peu rapide.
Non, ce que je voulais dire, il faut prendre conscience, le lecteur, enfin, l'auditeur doit prendre conscience que lorsqu'un dessinateur crée un album en noir et blanc, il dessine la planche avec son encre, et en quelque sorte, le noir ou le gris va remplacer la couleur. De sorte que si plus tard on colorise un album qui a été conçu pour être en noir et blanc, c'est une certaine perfidie. Le seul avantage, c'est que l'œuvre originaire, la planche en noir et blanc, subsiste. Faut pas imaginer que des coloristes ont colorié la planche originale et qu'elle est perdue à tout jamais. Non, c'est des photocopies qui sont coloriées. De sorte qu'aujourd'hui, on peut encore avoir le bonheur d'acheter cet album, soit en noir et blanc, et c'est la version d'origine qu'il faut acquérir si vous voulez connaître, découvrir l'album, soit la version colorisée. Mais toute colorisation d'un album conçu en noir et blanc est une perfidie, sauf dans l'hypothèse où l'album a été colorisé par l'auteur lui-même, Hergé, ou bien par des gens qui travaillaient avec lui. Ils pouvaient très bien épouser son style et coloriser la planche comme s'il l'avait colorisé Hergé lui-même. Alors que là, l'album a été colorisé en 1980, qu'est-ce que je en 2017, pardon. L'album a été colorisé en 2017 par Michel Barrault, qui était le directeur esthétique des studios Hergé et directeur esthétique chez Casteman par la suite. Effectivement, quand on regarde sa colorisation, elle est terne, elle manque de lumière, ce qui correspond pas souvent aux planches très lumineuses que pouvait colorier, pardon, Hergé lui-même. Ensuite, si l'on veut parler du style, le style évolue dans Tintin au pied des Soviets. Au début, le trait est assez uniforme, et puis petit à petit, on découvre au fil des planches quelques effets, comme le pointillé qui apparaît dans certaines planches. Et je trouve qu'à la fin de l'album, on s'approche un petit peu de ce qu'on appelle la ligne claire, un style un peu épuré. Mais c'est pas choquant puisque Hergé a dessiné donc cet album pendant 1 an et demi, de janvier 29 à mai 1930.
Voilà, parce qu'il y a quasiment 130 planches. Donc, autrement dit, on se retrouve avec un album qui est deux fois plus grand que les albums habituels de Tintin, qui étaient plutôt sur 62 planches, si je ne m'abuse.
Ouais. Et la
Et
grande
là.
création de cet album, c'est le premier album européen qui véritablement utilise ce qu'on appelle les phylactères, c'est-à-dire tout simplement les bulles. Auparavant, il y avait des cadres dans lesquels l'auteur insérait du texte, et
Du
c'est
narratif.
vraiment Hergé qui. C'est pas lui qui a créé les bulles, quelqu'un l'avait créé avant lui, c'était Zégépus d'Alain Satougan, mais c'est Hergé, lui, qui a fait tout le succès de ces bulles, et les bulles qu'il utilisait, lui, étaient d'une qualité plus intéressante que celle de Zégépus, qui écrasait un peu la planche, alors que Hergé, lui, les bulles n'écrasent pas les planches. C'est lui qui a inventé cet art de la narration qu'on insère dans des planches, dans des bulles, pardon. Voilà.
Alors effectivement, Hergé teste beaucoup de choses, témoigne déjà d'une grande habileté dans l'utilisation du médium, bande dessinée, et il va peu à peu perfectionner cet art, alors, et l'entraîner vers un trait plus précis, des planches plus denses, une inflation du décor, l'apparition de la couleur, de la nuance. Voilà, on passe peu à peu. De la pochade caricaturale feuilletonnée, voilà, à la va comme je te pousse, où il fallait qu'à la fin de chaque planche, il y ait une espèce de mise en danger de Tintin ou de suspense, à des scénarios qui vont être plus fouillés et où, bien sûr, on continuera à faire en sorte que le fait de tourner la page, et donc après la double page que représente l'album ouvert, il y ait toujours en bas à droite quelque chose de passionnant à découvrir. Mais on sent que Hergé se rôde, voilà, et en cours de route avec le studio Hergé, c'est-à-dire tous ceux qu'il va rassembler autour de lui pour l'aider à colorer les albums, à structurer la recherche documentaire, à mettre en place les couleurs. Il va y avoir peu à peu un changement profond dans la manière dont Tintin se présente et dont il va se polisser d'une certaine manière. Alors que là, c'est un Tintin presque voyou, c'est un Tintin reporter qui n'hésite pas à faire le coup de poing. Et voilà, ça deviendra plus sage. C'est un album qui mérite évidemment d'être lu. Voici notre premier épisode donc consacré aux fondateurs et aux œuvres fondatrices de la bande dessinée européenne, même mondiale, soyons francs. Eh bien, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour parler de tout à fait autre chose, mais dans cette veine. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.